Ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence.
Bonjour à toutes et à tous. Le Festival de Cannes a pris fin ce week-end et c'est finalement le réalisateur roumain Cristian Mungiu qui a remporté la Palme d'Or pour le film Fjord. Alors fini les montées de marche, au placard, les smokings et autres robes de soirée, bisous bye bye la croisette, on remballe tout et on rentre chacun chez soi reprendre l'écriture ou préparer les rôles du prochain film en lice pour la Palme d'Or. Il y en a un tout en particulier qui va peut-être devoir ajouter à sa préparation ordinaire des cours de media training pour apprendre à ne pas ruiner la promotion d'un film rien qu'en ouvrant sa bouche. Je parle bien sûr de Gilles Lellouche. Venu à Cannes pour claquer la bise aux copains, mais surtout pour présenter le dernier film de Laszlo Nemes, Gilles Lellouche a ouvert une brèche en répondant aux questions des journalistes sur son rôle. Enfin surtout, en ne répondant pas aux questions des journalistes, et notamment une question en particulier.
L'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement National, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traître à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement National. Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil National de la Résistance? Question pour Gilles Lellouche, s'il vous plaît.
Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur.
Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française.
Oh les gauchistes là, arrêtez donc de politiser le cinoche, on n'est pas là pour commenter la politique française. Ben si, Moulin c'est pas un film sur la préfecture de l'Allier, hein, c'est un film sur Jean Moulin. Jean Moulin, le monsieur qui organisait la résistance française, Jean Moulin, hein, Jean Moulin.
Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin.
Bien sûr que t'es là pour commenter la politique française, mec, tu sors un film sur la résistance à un an des présidentielles. Évidemment que t'es là pour parler de politique française. Dans une autre interview faite à la volée sur le tapis rouge, le réalisateur semble même confondre le chef de la résistance avec un coach en développement personnel.
Ce film parle de résistance. Selon vous, quel acte de résistance est nécessaire aujourd'hui ?
Être fidèle à ses idées, c'est déjà pas mal.
Je crois que Jean Moulin, à son niveau, a essayé de faire autant que possible pour avoir la meilleure version de lui-même. Et je crois que à chaque génération, on doit re-raconter les grandes histoires de personnes finalement normales qui deviennent, qui se transcendent et qui deviennent extraordinaires.
Alors on va remettre un petit peu les bases. Je conçois que Lellouche ait pu être agacé par la question sur la France insoumise. Mais réponds au moins à la première question, mon ref, c'est quand même pas sorcier de dire oui, le RN a été fondé par les potes du type qui a tué Jean Moulin, oui, c'est inquiétant, voire même absolument terrifiant de voir ce même parti toujours aussi raciste et antisémite gagner en popularité dans l'électorat français et être aux portes du pouvoir, et oui, je suis d'accord que la gauche héritée du Conseil National de la Résistance doit travailler ensemble pour ne pas laisser l'histoire se répéter. Bah oui mais non, Gilou il a vesqué la question.
D'abord j'ai commencé à esquiver. Hop là, esquive de la loutre. Hop là, esquive du lézard. Vois, pendant 5 minutes, je faisais des esquivages, tu vois, je faisais l'essuie-glace comme ça.
Alors il y a deux options, soit il vote RN, soit il a pas les couilles de froisser les fachos. C'est vrai que ce serait bien dommage qu'on froisse les fachos quand on a incarné un monsieur qui a sacrifié sa vie pour combattre les fachos. Comme quoi, même avec les meilleures équipes de costumes et la meilleure préparation du monde, il y a des rôles qui sont surdimensionnés pour les acteurs qui les enfilent. À moins qu'il soit encore hyper possédé par son rôle, et alors comme Jean Moulin qui n'a rien dit aux nazis malgré la torture, Gilles Lellouche n'a rien dit aux journalistes malgré la pression. Acteur studio, bravo. C'est con, hein, parce que Gilles Lellouche, là, il est en train de dynamiter la promotion du film. Un film de Laszlo Nemes, le réalisateur du merveilleux Fils de Saul sur un personnage aussi important de notre histoire, j'y serais bien allé. Mais vu comme les équipes ont l'air de n'avoir rien compris à ce que signifie la résistance, à savoir des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie ou l'ont mise sincèrement en danger pour empêcher les nazis et leurs collabos de mener à bien leur projet d'empire et d'extermination des juifs, et ben moi j'ai pas trop envie d'aller le voir ce film. Hein. Quand on fait un film pareil, on évite d'avoir séché les cours d'histoire. Je vais pas tergiverser 1000 ans sur cette histoire, puisque Gilles Lellouche est un con qui appartient à une caste d'acteurs et d'actrices incapables d'ouvrir leur bouche par peur de perdre leur statut, leur petit transreçoit bien confortable. Il n'y a qu'à voir le silence des plus grandes figures du cinéma sur l'histoire de la pétition anti-Bolloré d'une part, et les commentaires de certains d'autre part. Je pense par exemple à Dominique Farrugia, hein, l'ancien des nuls, pas foutu d'admettre que le Canal Plus des années 90 n'est pas le Canal Plus d'aujourd'hui, et que ce n'est pas le Canal Plus qui est critiqué dans cette tribune, mais Vincent Bolloré et sa main mise sur la culture.
Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture?
Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Et tous ceux qui ne disent rien, là, c'est de l'indécision ou bien de la lâcheté, j'ai pas la réponse. Ces deux polémiques du Festival de Cannes, elles amènent un lot de pistes de réflexion sur l'art et la politique, sur l'importance des acteurs qui incarnent les personnages. Quand tu endosses le rôle d'un personnage aussi engagé que Jean Moulin, tu ne peux pas te permettre d'être fragile sur tes appuis. Imaginez un petit peu que Léon Blum soit interprété par Jordan Bardella, par exemple. Vous voyez bien la dissonance. Et ben avec les acteurs, c'est pareil. Choisir un acteur ou une actrice en dissonance complète avec le rôle qu'il incarne, c'est du manque de respect et de la débilité profonde. Quand tu parles d'un personnage qui a existé ou d'un personnage fictif écrit pour être profondément engagé pour une cause ou pour une autre, il est nécessaire que ton acteur ou ton actrice partage cet engagement ou à minima ne le dénigre pas. Sinon ton film passe de très très profond à très très sans intérêt. Je vais donner un exemple. En novembre sortira le film L'affaire Marie-Claire qui parlera du procès de Bobigny et du combat de la puissante Gisèle Halimi pour la cause des femmes. L'actrice choisie pour incarner Gisèle Halimi, c'est Charlotte Gainsbourg. Et là, ça pose des problèmes. Le plus gros étant la prise de position solide de Gisèle Halimi pour la cause palestinienne et la dénonciation de l'État d'Israël, bien avant les événements de ces dernières années. C'est un point fort de sa carrière et de sa personnalité. Et Charlotte Gainsbourg, elle, elle a signé une pétition pour protester contre la reconnaissance de l'État de Palestine par Manu Max. Et puis elle est aussi mariée à Yvan Attal, hein, le poète, auteur de cette magnifique diatribe.
Les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires.
Le cinéma est politique. Hein. Choisir un sujet, écrire des personnages, c'est faire des choix politiques. La folie, l'amour, la maladie, c'est politique. Traiter un sujet sous la forme comique ou sous la forme dramatique, c'est un choix politique. Prenons les films récents. Le biopic sur Michael Jackson, bah par exemple, il est politique ce film, parce qu'il parle de la carrière de Michael Jackson sans parler des accusations de pédophilie dont il a fait l'objet. Le film Pour le plaisir avec Alexandra Lamy et François Cluzet, qui parle de la quête de l'orgasme d'une femme mariée depuis 20 ans, c'est politique parce que ça parle du rapport patriarcal au sexe et le tabou du plaisir féminin. Et encore une fois, Justine Illusion, le dernier Toledano Nakash, c'est un film politique parce qu'il parle de religion, de quête d'identité, de chômage et d'amour, et tout ça, c'est politique. Bref, la liste est longue, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire un film sur Jean Moulin pour faire un film politique, parce que tout art est politique. Le cinéma, c'est pas juste filmer des acteurs et mettre une musique super émouvante derrière, hein. C'est raconter des histoires, poser des questions, amener une réflexion, remettre des sujets passés sur le devant de la scène à des périodes clés, par exemple à un an des présidentielles. C'est à toi que je parle, Gilles.
Le cinéma, c'est vendre des pop-corn.
Tant qu'on parle d'art et de politique, est-ce que vous avez vu que François Ruffin a concrétisé ses fantasmes de grand sauveur de l'humanité ? Le Boug nous a sorti sa plus belle bande dessinée, hein, Les Aventures de François Ruffin, Picardie Splendor. Une BD pour raconter une France fracturée qu'il faut réparer. Ouais, fracturée par la montée de l'extrême droite, de l'individualisme, des ultra-riches qui inséminent leur propagande xénophobe dans tous les secteurs qu'ils possèdent, je suppose. Ah bah non, la France de François Ruffin, elle est fracturée par les musulmans qui voient le mal partout et les étrangers qui payent pas leur billet de train. Cette BD, elle a fait scandale parce qu'elle dépeint moult clichés, et en particulier une planche. On y voit des contrôleurs s'acharner sur une femme noire dans le train qui a l'audace de s'être trompée d'un euro et des brouettes sur le billet qu'elle devait prendre et qui en plus ne parle pas la langue et s'énerve. Un homme maghrébin invective les contrôleurs, le train est arrêté, le ton monte, panique à bord. Mais heureusement, un homme va régler la situation. Un homme blanc en costard qui va régler l'amende scandaleuse de 11 euros et faire la morale aux deux non-blancs jusqu'à ce que le maghrébin s'excuse. Merci François, grâce à toi la France va mieux. Sauf qu'en fait, le fameux maghrébin en colère, bah c'est Félix, un homme un petit peu interloqué par la dépiction faite de la situation dans la BD.
Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet en fait, où il y a marqué une gare qui n'est pas la bonne. Elle est anglaise, donc elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Je suis juste à côté et j'accepte pas qu'il lui parle comme ça. Donc j'interviens. Comme le train ne repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne repart pas. Lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il ne s'en souvient plus. Il ne se souvient plus de son code. Et donc, j'interviens en disant, bah, ok, moi, je vais payer. Parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. Alors, c'est... Jamais de la vie, je m'ai remercié d'être intervenu. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire, que je ne suis pas arabe. Je suis blanc, je suis né en France, mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche en fait. J'ai une barbe, c'est tout. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas, c'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire.
Bref, les contrôleurs ont été pris en flagrant délit de racisme ordinaire par Félix et Ruffin s'est pris pour le roi du monde en faisant croire à tout le monde qu'il a réglé le problème alors qu'il n'est pas foutu de se souvenir du code de sa carte. Et ça, ça veut devenir président de la République. Je donne pas cher de nos codes nucléaires. C'est fou ça, quel besoin tu as de travestir les profils des personnages de la réalité. Pour que ça régale un petit peu plus les fachos déjà surexcités au moindre arabe qui hausse un sourcil ou pour servir ton fantasme d'une France qui peut pas cohabiter. Bref, entre Gilles Lelage qui est pas foutu de porter ses balls pour dire fuck les fachos et un François Ruffin qui se prend pour le Christophe Colomb de la Picardie, on n'est pas sorti de l'auberge. Décidément, de la croisette à la Picardie, la déconnexion est totale. Je vous rappelle que voter, c'est comme acheter un ticket de cinéma, c'est politique. On vote pour une promesse et on est toujours déçu à la fin de la séance. Ras le cul. En attendant la révolution, soyez curieux, restez révoltés et écoutez bien vos cours d'histoire. Bisous.